Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron se dit indigné par les frappes israéliennes sur Rafah dans la bande de Gaza. Le président français demande un cessez-le-feu immédiat, réaction après que des dizaines de personnes ont été tuées dans un bombardement. Ce bombardement est intervenu 3 jours après que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive militaire sur cette ville du sud de la bande de Gaza. Nous y reviendrons avec le coprésident du MRAP, Jean-François Quentin. Un très lourd bilan après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus de 2000 personnes ont été ensevelies. Une vingtaine de villageois ont été tués samedi dernier par des hommes armés dans le centre du Mali. Ce sera ce mardi et ce mercredi à l'Institut du Monde Arabe à Paris. L'association L'Islam au XXIe siècle organise sa 3e conférence internationale. Parmi les intervenants, l'essayiste Hakim El-Karoui, auteur de L'Islam, une religion française, chez Gallimard. Il sera l'un de nos invités. L'examen du texte sur la fin de vie a débuté ce lundi à l'Assemblée nationale. Cela va durer 2 semaines. L'indignation internationale après qu'un centre de déplacés a été bombardé dans la bande de Gaza. C'est arrivé près de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. La défense civile palestinienne a annoncé un bilan de 45 morts. La zone avait été désignée il y a quelques jours comme sûre par l'armée israélienne. Emmanuel Macron s'est dit indigné par les frappes israéliennes qui, dit-il, doivent cesser. L'Égypte condamne un bombardement délibéré des forces israéliennes. Vive condamnation également du coprésident du MRAP. Entretien avec Jean-François Quentin.
Nous sommes, comme beaucoup de monde, je suppose, effarés de voir que la situation devient de plus en plus tragique pour la population gazaoui et que Israël s'enfonce dans une logique absolument criminelle et en plus sans issue. Donc, nous allons condamner ces bombardements, mais comme nous condamnons depuis 6 mois le martyr du peuple gazaoui.
Ces bombardements qui interviennent quelques jours seulement après la décision de la Cour internationale de justice qui a ordonné à Israël de cesser immédiatement son offensive à Gaza, la Cour internationale de justice qui est la plus haute juridiction de l'ONU.
Ces bombardements interviennent dans un contexte international qui est une véritable provocation, puisque il y a 3 jours, la Cour internationale de justice, donc la Cour de l'ONU, a demandé à Israël de ne pas bombarder cette ville qui est le dernier refuge de la population gazaoui. Ça a fait suite à une autre demande, toujours de la Cour internationale de justice, il y a 3-4 mois, d'éviter que l'opération militaire tourne au génocide. Et puis, en même temps, il y a eu récemment l'appel du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a lancé des poursuites contre Netanyahou et Galant, ou demandé l'ouverture de poursuites. Donc, on est dans un contexte international où à peu près tous les pays et l'ONU demandent à Israël d'arrêter cette stratégie criminelle et sans issue. Les bombardements d'aujourd'hui ont donc en plus un côté de provocation vis-à-vis de la communauté internationale.
Quelle est aujourd'hui justement la marge de manœuvre de la communauté internationale afin que des décisions comme celle de la Cour internationale de justice soient appliquées ?
Mais écoutez, je crois que, enfin déjà politiquement, l'isolement d'Israël, son isolement y compris diplomatique, est essentiel. Diplomatique et aussi éventuellement commercial avec des sanctions. Il est possible, comme on l'a fait pour d'autres pays, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des sanctions pour isoler Israël du contexte international. Et il y a également eu la reconnaissance de l'État palestinien, qui est une étape vers l'établissement de ce qu'on appelle la solution à 2 États. Alors, on sait bien qu'il y a 8 jours, là, 3 pays européens viennent de le reconnaître. l'État palestinien. Et il y a peu également, l'Assemblée générale de l'ONU a voté majoritairement la reconnaissance pleine et entière de l'État palestinien, qui n'aura pas lieu parce que l'Assemblée générale de l'ONU n'a pas le dernier mot quand les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas unanimes.
La France a indiqué que cette reconnaissance d'un État palestinien n'était pas un tabou, mais que ce n'était pas le moment en substance.
Alors là aussi, nous, disons le MOAB et beaucoup d'associations, demandent à la France de reconnaître enfin l'État palestinien. Alors, là, c'est une position assez paradoxale parce que dans le dernier vote à l'ONU dont je parlais, la France a voté pour son admission à pleine et entière à l'ONU. En France, le Parlement et le Sénat ont déjà voté pour la reconnaissance, cette fois par la France, de l'État palestinien. Et il ne reste plus que le dernier geste, j'allais dire politique et administratif, que le gouvernement ratifie ce que demande le Parlement, c'est-à-dire la reconnaissance. Et ce dernier pas, bien sûr qu'il faut qu'elle le franchisse.
Paris qui appelle à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La France s'en donne-t-elle les moyens, d'après vous ?
Alors nous, ce qu'on dit, c'est que s'en donner les moyens, c'est justement continuer à isoler politiquement, diplomatiquement et par des sanctions commerciales le gouvernement israélien. Et quand je dis commercial, tout particulièrement, il faut cesser immédiatement toute vente d'armes à Israël. C'est déjà le premier pas essentiel. Quand on souhaite un cessez-le-feu, on prive celui qui tire des armes.
Le coprésident du MRAP, Jean-François Cantin, le ministère égyptien des Affaires étrangères, appelle Israël à mettre en œuvre les mesures édictées par la Cour internationale de justice concernant une cessation immédiate des opérations militaires à Rafah. La demande de la plus haute juridiction de l'ONU remonte à vendredi dernier. Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas, estime que ces frappes pourraient entraver les pourparlers de trêve à Gaza. Une frappe israélienne a fait un mort et plusieurs blessés près d'un hôpital dans le sud du Liban. C'est ce qu'indique l'agence officielle de presse libanaise. Le ministère israélien des Affaires étrangères ordonne au consulat d'Espagne à Jérusalem de cesser ses services aux Palestiniens à partir du 1er juin, une mesure suite à la reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine. La semaine dernière, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé leur décision de reconnaître l'État de Palestine à partir de ce 28 mai. Un très lourd bilan après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus de 2000 personnes ont été ensevelies et sont décédées. Un village à flanc de colline au centre de l'archipel a été presque totalement anéanti quand un pan du pont Mungalo s'est effondré. Le glissement de terrain a causé d'importantes destructions de bâtiments. L'agence de l'ONU pour les migrations appelle à l'aide à la communauté internationale. Une vingtaine de villageois ont été tués samedi par des hommes armés dans le centre du Mali. Le pays est plongé dans une crise depuis le déclenchement en 2012 d'insurrections indépendantistes et djihadistes dans le nord. Des militaires y ont pris le pouvoir par un coup d'État en 2020. Ils ont rompu leur partenariat militaire avec la France pour se tourner vers la Russie. L'association L'Islam au XXIe siècle organise sa troisième conférence internationale. L'Islam, les chemins de la tolérance et de la liberté, à l'Institut du Monde Arabe, ce mardi et ce mercredi. Parmi les intervenants, l'essayiste Hakim El-Karoui, auteur de L'Islam, une religion française, chez Gallimard. Il s'exprimera sur le dialogue entre l'Islam et la société française. Hakim El-Karoui.
Le dialogue, il est important, on le voit bien, parce que il n'y a pas de dialogue. Il y a des a priori des deux côtés, il y a des inquiétudes qui sont fortes dans la société française compte tenu des événements récents, y compris violents. Et puis il y a une grande difficulté du côté des musulmans à se faire entendre, et je dirais même à prendre la parole. Et pas seulement parce que les médias sont hostiles, tous les médias sont pas hostiles, mais il n'y a pas beaucoup de porte-parole. Il n'y a pas beaucoup de porte-parole qui sont prêts à jouer le jeu, d'une certaine manière, d'une discussion publique, d'une acceptation des problèmes, et puis d'une vue assez pondérée des problématiques qui se posent pour la juste et sereine insertion de l'islam dans la société.
Et donc, il est important d'entamer ce dialogue lors d'une conférence internationale. C'est finalement un moment où la parole circule plus facilement qu'à la télévision.
Oui, parce que d'abord, on a un peu plus de temps. Ensuite, on est entre gens qui ne veulent pas faire du clash ou de la polémique. Et puis, enfin, je pense que pour faire ce dialogue, il faut s'écouter les uns les autres. Il faut écouter les difficultés des uns des autres. Pour les musulmans, il faut entendre et nommer ce qui n'est pas compris dans les sociétés occidentales, notamment dans la société française. Par exemple, la violence au nom de l'islam. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Pour les non-musulmans, il faut qu'ils comprennent que les musulmans, une bonne partie d'entre eux en tout cas, souffrent d'un sentiment de relégation, de l'incapacité de leur donner la parole d'une certaine manière, d'une forme de légitimité qui est toujours questionnée sur leur place dans la société, sur leur appartenance tout simplement à la société française. Donc il faut faire un pas l'un vers l'autre. C'est comme ça qu'on commence le dialogue. Et puis une fois qu'on dialogue, on dit qu'il y a des problèmes, mais quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Et moi, je crois vraiment qu'il faut insister sur les solutions.
Et comment sortir de l'ère du soupçon, de la malveillance, puisque parfois, quand des Français de confession musulmane prennent la parole, ils sont soupçonnés de penser autre chose, d'être des islamistes qui ne disent pas leur nom.
Oui, c'est très compliqué. Mais ça, c'est un des éléments qui crée de la défiance, hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut parler et parler encore. Savoir à qui on a affaire, être capable de faire un geste d'une certaine manière vers l'autre, y compris des gens qui sont pas très bien intentionnés. Mais surtout, il faut jamais se laisser intimider. Il faut dire la réalité, la vérité, et puis dire « voilà, ça c'est notre vérité ». On est capable d'entendre la souffrance de l'autre, si je prends l'exemple de Gaza. On est capable aussi de faire entendre la souffrance des Palestiniens ou la souffrance des Israéliens. Les deux existent, les deux sont légitimes, mais vous n'avez pas le droit de nous soupçonner. Notre empathie, elle est réelle, et il n'y a pas plus de raison de nous soupçonner que de soupçonner n'importe quel autre acteur. Voilà, mais ça, c'est de la persévérance, hein. C'est aussi un petit peu d'organisation, probablement.
Est-ce que l'enjeu pour qu'il y ait un dialogue apaisé, c'est aussi de faire comprendre à la société française que l'islam n'est pas une religion étrangère, que c'est une religion qui appartient aussi à la nation française?
Oui, vous parlez d'or, parce que vous savez peut-être que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Islam, une religion française ». Je suis premier à dire, enfin le premier, pas le seul évidemment, que l'islam aujourd'hui n'est plus une religion de l'extérieur ou d'étranger. C'est peut-être la première religion pratiquée en France, au sens de la pratique quotidienne. C'est la religion de millions de Français qui sont nés en France. Et ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, et je dirais même encore plus demain, parce que les musulmans sont plus pratiquants que les autres, et puis parce que l'immigration, contrairement à ce que disent tout le monde, l'immigration ne va pas cesser pour des raisons très simples. La France a besoin d'immigration.
Et donc cette question du dialogue entre la société française et l'islam, elle est cruciale pour l'avenir, pour sortir de ces crispations?
Elle est cruciale parce que quand il n'y a pas de dialogue, on voit ce qui se passe. Il y a des extrêmes qui montent. L'extrême droite qui est anti-musulmane, et puis il y a l'extrême gauche qui essaye de récupérer une partie des frustrations des musulmans, ou en tout cas de certains musulmans. Donc c'est absolument essentiel. Et encore une fois, pour moi, le dialogue, c'est très simple. Il faut nommer les problèmes. Les problèmes communs, des uns et des autres. Et puis il faut trouver des solutions, mais vraiment des solutions, il y en a plein. Donc le problème, c'est pas les solutions. Le problème, c'est être capable de nommer les problèmes pour que les uns et les autres entendent l'autre. Il faut institutionnaliser l'organisation de l'islam en France. Pour faire ça, j'y travaille depuis de nombreuses années, je crois vraiment que la meilleure solution, c'est de trouver un modèle de financement. C'est un peu paradoxal, on s'attend pas à entendre parler d'argent quand on parle d'organisation, mais en fait, comme on n'est pas capable de trouver une organisation, là je parle des musulmans de France, si on est capable de trouver des ressources financières, en fait, les ressources financières vont encourager à trouver l'organisation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est vraiment la plus importante, On ne peut pas laisser une sorte de monopole du discours sur l'islam, sur ce que c'est que, entre guillemets, le vrai islam, même s'il n'y a évidemment pas de vrai islam, il y en a plusieurs, sur ce que sont les normes, les comportements, etc. On ne peut pas laisser ça à des prédicateurs qui sont souvent pas très savants en matière religieuse, mais qui sont très virulents. Je crois qu'il faut organiser la pluralité, il faut respecter les différents points de vue, organiser la pluralité et se faire entendre. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un autre discours musulman sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, notamment vis-à-vis des jeunes, le discours sur l'islam, il est très univoque, il est très islamo-identitaire d'une certaine manière, il rejette très largement une forme de tradition, il rejette la transmission par les parents, par la génération d'avant, et ça c'est pas possible. Et ça veut dire que les musulmans doivent s'engager. La solution, c'est pas les non-musulmans qui l'ont. La solution, ce sont les musulmans. Et le problème, il est entre musulmans. Donc, engagez-vous.
L'essayiste Hakim El-Karoui, auteur de l'islam, une religion française chez Gallimard, il répondait à Loïc Barrière. Des messages racistes ont été inscrits sur la mosquée de Pessac, en Gironde. Ces dégradations sont intervenues quelques jours avant une audience du tribunal judiciaire de Bordeaux, audition lors de laquelle la justice examinera la demande de la préfecture de la Gironde d'expulser un imam de la mosquée. L'examen du texte sur la fin de vie a débuté à l'Assemblée nationale. Cela va durer 2 semaines, 3300 amendements ont été déposés. Des députés veulent élargir la portée du texte gouvernemental, d'autres la restreindre. Pour accéder à ce qui est appelé l'aide à mourir, plusieurs conditions sont posées. Il faut être majeur, il faut être atteint d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale. Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Selma Labib, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste et tête de liste du NPA pour les élections européennes. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.